On vous souhaite en effet une excellente journée. Bon réveil sur Radio Chablais. Il est 7h, décollage continue jusqu'à 9h. Tout de suite, c'est l'actu.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Un journal présenté par Ludovic Turin. Bonjour Ludovic.
Bonjour Bastien, bonjour à tous. Le canton de Vaud affirme être prêt à faire face à l'ensemble des menaces sécuritaires à une semaine du G7 qui se tiendra à Évian-les-Bains du 15 au 17 juin. Près de 2200 policiers, gendarmes, militaires et civilistes seront déployés sur le territoire afin d'assurer en permanence la sécurité de la population et la fluidité du trafic tout en limitant l'impact de l'événement sur les commerces locaux. Les frontières avec la France resteront ouvertes mais sous surveillance renforcée. Contrairement à Genève et malgré une manifestation féministe annoncée à Lausanne le 13 juin, le canton de Vaud ne recommande pas aux commerçants de fermer leur établissement. Explication de Sylvie Bulla, commandante de la police cantonale.
La question de la convergence de différents groupes vers une manifestation, c'est un risque qui existe somme toute dans la plupart des manifestations, donc on y est attentif. On ne part pas de ce principe-là, les discussions avec les organisatrices de la grève féministe ne vont pas dans ce sens-là, mais si cela se produit, on sera prêt pour y répondre de manière proportionnée et adaptée.
Des propos recueillis par Anthony Dacampo. Pour les autorités, la situation sécuritaire diffère nettement de celle du sommet de 2003. Aucune délégation ne loge en effet dans la capitale vaudoise et aucune manifestation anti-G7 n'est prévue. Le coût de cette importante mobilisation policière sera financé à hauteur de 80% par la Confédération.
Et cette réunion des 7 chefs d'État entraînera des répercussions jusque dans le ciel chablaisien.
Et oui, les bases d'Air Glacier, de Colombey-Murailles et de Lézin vont se retrouver au cœur du périmètre de sécurité établi par les forces armées françaises. Un rayon qui va de la ville tricolore jusqu'à Martigny, à l'intérieur duquel des restrictions strictes seront mises en place. Si les opérations de sauvetage ou de transfert de patients seront réalisables, les travaux de transport de matériel devront eux être soigneusement annoncés auprès d'un registre national. Les explications de Damien Fellman, chef des bases romandes d'Air Glacier.
Tout ce qui est transport de charges, nous devrons, le jour précédent, à un horaire qui devra être prédéfini, définir avec l'armée toutes nos interventions au niveau du transport de charges dans la région. L'armée va ouvrir un centre opérationnel exprès pour cet événement du côté de Dubendorf et ils vont traiter chacune de nos demandes, les valider ou non, pour pouvoir opérer durant la période du G7 dans le secteur qui sera fermé. Mais on parle que de transport de charges. Tout ce qui est transport de personnes sera strictement interdit durant cette période-là. Je parle bien évidemment pas de personnes blessées, de personnes pour des vols taxis ou des vols panoramiques.
Et si Air Glacier pourra maintenir certaines de ses activités essentielles, ce n'est pas le cas de l'aérodrome de Baie. Durant 3 jours, le site chablaisien sera complètement fermé à tout départ d'aéronef, mais pas seulement. Des tests seront aussi effectués la semaine qui précède le sommet, donc cette semaine, comme nous l'explique Philippe Manuel, chef de l'aérodrome de Baie.
La restriction complète, c'est du lundi au mercredi pendant le G7, mais pour tester le système de sécurité, il y aura des restrictions aussi les 3 jours qui précèdent le G7. Mais l'objectif, donc, la zone va être interdite à toute activité aéronautique, mais il y a quand même des avions qui vont décoller, qui seront annoncés à Skyguide et annoncés à l'armée, qui vont essayer de rentrer. Ils vont tout faire pour raser les collines, essayer de rentrer dans ce cercle. Et l'idée, c'est qu'ils soient attrapés par un avion de la chasse suisse ou française.
Et le ciel suisse et donc chablaisien sera scruté de près durant cette période du G7 à Évian-les-Bains qui, on le rappelle, se tiendra du 15 au 17 juin.
Le centre collecteur régional de céréales du Bas-Valais s'agrandit.
Inauguré vendredi dernier à Colombey par la société Landy Rhône-Lavaux, cette extension marque une étape importante pour les agriculteurs de la région. Construite en 1986 puis modernisée en 2011, un agrandissement était à présent nécessaire, notamment depuis la fermeture du centre collecteur d'Aigle. Ce projet devisait à plus de 5 millions de francs et a été finalisé en 2025. Ils répondent aux nouveaux besoins en matière de production et de stockage des céréales dans la région. Au-delà de l'infrastructure, la coopérative de producteurs cherche également à faire passer un message en faveur des agriculteurs de la région. Maxime Montagrin, directeur et responsable du département agricole pour Landy Rhône-Lavaux.
Les gens, quand on mange du pain, on a tendance à soit penser automatiquement la farine suisse, Mais au fait, c'est pas tout le temps le cas. Notamment dans les restaurants, on n'a pas l'habitude. On regarde souvent d'où vient la viande, mais pas forcément d'où vient le pain. Il y a aussi une marque, Pain Suisse, qui existe, qui peut être utilisée par les boulangers. Donc oui, en effet, le message, il est important. Il faut consommer suisse et faire attention qu'on consomme la production suisse.
Des propos recueillis par Martine Wüstiner. L'agrandissement a également permis de mettre l'entier du site aux nouvelles normes de sécurité et d'installer des panneaux solaires afin de produire une partie de l'énergie consommée sur le site.
Limiter les importations de foie gras sans toutefois les interdire.
C'est la voie choisie par le Parlement fédéral. Les deux chambres ont élaboré un contre-projet indirect à l'initiative populaire Foie gras. Le Conseil des États a suivi le national dans les grandes lignes hier soir. L'idée est d'accompagner l'étiquetage obligatoire d'une surveillance des importations. Si les quantités ne diminuent pas, le Conseil fédéral pourra prendre des mesures complémentaires. Il est important de proposer au peuple une alternative à l'interdiction, estime Mathilde Crevoisier-Crelier. La sénatrice socialiste constate que les sensibilités sont très différentes en Suisse alémanique.
Il y a une grande partie des personnes en Suisse-Allemagne qui n'en mangent jamais, à qui ça ne manquera pas du tout, ce que je peux comprendre moi aussi parce que je ne mange pas de viande, donc je suis aussi concernée au même titre. Après, effectivement, il faut respecter les traditions culturelles. Je crois qu'en Suisse, on est attaché à nos diverses traditions, qu'elles soient culinaires ou autres. Dès lors, on ne peut pas s'asseoir sur une partie des sensibilités qui se manifestent en Suisse romande.
Des propos recueillis par notre correspondante à Berne, Marie Vuillemier. Le Conseil des États a ajouté des précisions au contre-projet indirect. Le dossier retourne maintenant au Conseil national.
Le débat sur le retour de l'énergie nucléaire divise fortement le Parlement fédéral.
Au Conseil national, les élus discutent d'un contre-projet visant à lever l'interdiction de construire de nouvelles centrales en Suisse, et ce afin de garantir la sécurité d'approvisionnement. La droite et une partie du centre soutiennent cette option, estimant qu'elle permet de garder toutes les technologies ouvertes face à une demande d'électricité. Électricité en hausse. La gauche, les Verts et le PVL s'y opposent fermement, dénonçant des coûts élevés, les risques liés aux déchets et un frein aux énergies renouvelables. Les votes sont attendus pour aujourd'hui.
La Suisse tire la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire à Gaza.
Et dans une déclaration commune signée avec 19 autres États et la Commission européenne, Berne juge la situation catastrophique et appelle Israël à garantir un accès humanitaire rapide et sans entrave. Le département fédéral des affaires étrangères souligne notamment l'effondrement du système de santé, avec aucun hôpital pleinement opérationnel sur les 36 que compte le territoire. Depuis novembre 2023, la Suisse a consacré près de 174 millions de francs à l'aide destinée à la population palestinienne.
On passe au sport. Football, le FC Martigny Sport doit digérer sa relégation.
Et une semaine après la fin de saison de Première Ligue conclue au 15e et avant-dernier rang, les Octoduriens doivent se préparer à retrouver la 2e Ligue Inter, un an seulement après l'avoir quittée. S'ils s'attendaient à ce que cet exercice 25-26 soit compliqué, le coach Hugo Raczynski aurait tout de même espéré mieux.
Pardon, c'était mon tour là.
Ah non, pas de souci.
Je connais le niveau de Première Ligue classique, donc on savait que ça allait être dur. D'ailleurs, le maintien était l'objectif fixé depuis le début de la saison. Personnellement, ouais, sans être trop optimiste en début de saison, on savait qu'on avait quelque chose à faire en Première Ligue, mais on savait que ça allait être dur parce qu'on voulait continuer dans cette politique de formation et de développement des jeunes. Ben avec le recul, on est toujours plus intelligent et c'est vrai que sur certains matchs, la maturité nous a manqué, mais pas que. Il y avait aussi d'autres facteurs qui font que, ben à un moment donné, vous vous retrouvez dans cette situation-là. Mais encore une fois, il y a beaucoup de bonnes choses quand même à apprendre. Et puis c'est là-dessus, à mon avis, que le Martigny Sport doit construire quelque chose.
Et une construction qui se fera sans Hugo Raczynski, qui entraînera les moins de 21 du FC Sion la saison prochaine. Un sujet préparé par Thierry Nicolet.